Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Alors merci David qui a l'habitude de me repasser l'antenne, mais aujourd'hui c'est un peu spécial parce que en fait on le garde avec notre invité parce que aujourd'hui c'est la journée du geek. Voilà, on peut le dire. On a trois geeks dans le studio. Hein, je crois que ce n'est plus péjoratif depuis des années. Hein, le mot geek, attention. Hein. Donc aujourd'hui, on reçoit James Manier, président de James Game Center. On va parler de culture jeux vidéo. Et il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut accoler ces deux mots ensemble, mais ça va ensemble. Et on va en parler d'ailleurs tous les trois. Bonjour messieurs, comment allez-vous ?
Ben moi ça va bien, et puis notre invité a l'air d'aller bien aussi.
Oui, bonjour à tous, ravi d'être ici, merci de m'accueillir. Et oui, on va parler de la culture du jeu vidéo.
Voilà, il y en a une. On va écouter d'abord le Flash Info national et international, et ensuite on se retrouve pour la première partie de cette émission. À tout de suite. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Alors, bon, la tradition ici, c'est qu'on commence toujours un petit peu par demander à l'invité un petit peu sa trajectoire personnelle. Et bon, on va vite se rendre compte qu'en fait, les deux sujets, le sujet général de l'émission et l'invité, sont étroitement entremêlés, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est un parcours clairement atypique. Hein. Alors, ça part déjà d'une passion pour le jeu vidéo tout jeune, comme beaucoup de jeunes. Hein. Donc, on joue à aux premières consoles, aux premiers jeux vidéo. Et j'ai eu la chance, ou en tout cas l'opportunité, de partir un petit peu dans le milieu professionnel, d'abord en magasin spécialisé, en distribution de jeux vidéo, et après de pouvoir travailler étroitement dans le milieu. Mais surtout, moi, très très vite, la spécificité, c'est d'avoir intégré le fait qu'il y avait un patrimoine, une sauvegarde à faire du jeu vidéo, un objet culturel entre les mains.
Oui.
Et donc, très très rapidement, dès le début, milieu des années 90, avant même qu'on parle de geek, de rétro gaming, tous ces termes qui sont arrivés bien après, il y a eu du partage de l'associatif, de la sauvegarde. Voilà, on ne voulait pas revendre ces jeux, on voulait garder des pièces. Avec la conscience que ce qu'on appelle le rétro gaming maintenant, on appelle ça plutôt du classic gaming, donc on était sur, des classiques. Il y avait tout le marketing qui existe encore maintenant de vendre des nouvelles consoles et d'aller toujours plus loin. Mais les souvenirs étaient déjà très présents, donc la nostalgie.
Et oui, voilà, un petit peu.
Et voilà, tout ce dont on va parler. Et donc du coup, oui, très très vite, le jeu vidéo a été mon métier, et bien plus qu'un métier, une passion associative à côté. Donc, donc ça a pris tout mon temps et mon énergie.
Oui, alors pour preuve que c'est, on parlait de culture, ben sur le site du ministère de la Culture, et on peut trouver d'ailleurs un article qui date un petit peu 2020-2021, mais il y a un long article sur les jeux vidéo qui décrit un petit peu l'historique et l'implication dans la culture, etc. Donc, c'est une preuve factuelle hein, que certaines personnes et les instances ont réalisé que oui, ça faisait partie de la culture, hein, vraiment.
Alors réaliser, on est toujours dans ce combat, hein, dans cette démarche d'essayer de leur faire réaliser. Modestement, moi et les personnes dans l'association et d'autres associations en France, on milite justement depuis des décennies pour faire reconnaître le jeu vidéo comme un objet culturel. Et voilà, donc c'est la croisée, comme on le sait, de la technologie, du culturel. Il y a toute la création artistique, il y a les métiers du jeu vidéo, l'emploi. Il y a tellement de choses autour. Voilà, on essaye de faire comprendre aux instances que c'est quelque chose dont on doit s'occuper.
Oui.
Jusqu'à présent, il y a eu des démarches et des avancées pas à pas, mais il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
Et oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de législateurs, sans vouloir dire du mal d'eux, mais en disant un petit peu quand même, qui ont l'âge d'un geek, mais pas du tout la culture.
Oui, alors là j'y joue, hein, parce que là, quand on parle de rétro gaming, on parle de nostalgie, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit.
C'est vrai, ouais.
Mais oui, les législateurs, mais on grandit, hein. C'est sûr que maintenant, des personnes qui sont dans des postes à direction, qui ont la cinquantaine et plus, sont probablement des joueurs passés et présents, donc ça aide quand même beaucoup.
Oui. Est-ce qu'il y a toujours le de mineur sur Windows? J'ai pas regardé, mais il y a une époque. Hein, il est toujours ou caché même. Hein.
Ouais, il y a toujours les quelques jeux de cartes et les autres des mineurs. Oui,
je crois qu'ailleurs il y a des Easter eggs dans Excel ou des trucs comme ça, il me semble.
Oui, bah, le jeu est omniprésent maintenant dans la culture populaire et les gens, même les gens qui pensent ne pas jouer, jouent aux jeux vidéo. Mm. Il y a des rapports chaque année faits par justement gouvernementaux pour étudier le panel des joueurs, les utilisateurs. On n'est pas loin des 100% de gens, hein, en tout cas dans les chiffres, les femmes, les enfants, les hommes, les personnes âgées, tout le monde a un rapport maintenant avec le jeu vidéo, c'est dans la culture omniprésente.
Hein. Oui, tout à fait, oui.
Puis sur les téléphones portables.
Exactement, c'est là où les gens ne se rendent pas compte qu'ils jouent, plupart. C'est que on joue sur téléphone portable, joue en faisant ses courses, il y a de la gamification, ce qu'on appelle dans les entreprises, dans le team building, dans tellement de choses qui fait que le jeu vidéo est vraiment, vraiment omniprésent. Alors, bien sûr, il y a la démarche de chez soi, personnellement, d'aller brancher une console, de jouer à un ordinateur, à un jeu.
Oui.
Mais même au-delà de ça, dans la publicité, dans plein de choses, le jeu vidéo est présent partout.
Oui. Alors, en termes de chiffres, je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais ça fait déjà pas mal d'années, je crois que le budget annuel, si on le considère, il a explosé celui du cinéma, etc., et que en termes de consommation...
Alors oui, on peut parler du chiffre d'affaires en lui-même. Oui, ça a dépassé la musique et le cinéma depuis longtemps, avec des proportions assez importantes. On parle de 100 fois plus de chiffre d'affaires, etc. C'est une énorme industrie mondiale. Ça reste une industrie pour beaucoup de monde, pour ceux qui travaillent dedans, donc il faut vendre. Donc une industrie qui a ses codes de marketing. Les modèles économiques ont beaucoup, beaucoup évolué. C'est une des choses que nous on met dans l'aspect culturel, c'est la différence et l'évolution des modèles économiques qui rejoignent ceux de la société actuelle. Donc actuellement, on sait très bien qu'on est sur des modèles un peu Netflix, abonnement, jeux en ligne, dématérialisé, etc. Avant, on a commencé par mettre des pièces dans des machines d'arcade. Ouais. Ensuite, on a acheté nos propres jeux qui étaient finis en cartouche pour mettre dans nos consoles. Mmh. On a copié des disquettes peut-être pour mettre dans nos ordinateurs.
Ouais.
Là, maintenant, on joue sur des serveurs. On a du free-to-play. Il y a eu toute cette mode-là, etc. etc. Mmh. Donc, le modèle économique est intimement lié à l'époque.
Oui.
Et c'est intéressant à étudier, en tout cas.
Oui. Alors, c'est vrai que maintenant, au niveau matériel, je pense qu'il y aura peut-être moins de choses. Parce que c'est quoi en termes de console de jeu, je parle, bien sûr. Parce que qu'est-ce qui reste? Bon, il y a toujours un petit combat entre Xbox et PlayStation, enfin Sony et Microsoft. On a aussi Nintendo, quand même, qui survit avec, je ne sais pas s'il y a toujours la Wii
Switch.
Et la Switch.
Et la Switch 2,
oui, apparemment, qui n'a pas été une réussite.
Switch 2 bat tous les records.
Pas en termes de vente, mais je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'en fait, il n'y avait pas de gap vraiment.
Les avis sont toujours partagés, mais ça marche très bien en tout cas. Nintendo n'a pas de souci à se faire. Alors les constructeurs actuels sont assez restreints. Alors ils l'ont toujours plus ou moins été, sauf que maintenant il est de plus en plus difficile, à mon sens, de vouloir rentrer dans la course avec des géants. Les générations d'avant, alors on va pouvoir faire un distinguo entre le monde des micro-ordinateurs qui étaient des machines de jeu au final, et l'arrivée des consoles. Donc les micro-ordinateurs, il y a eu évidemment énormément de modèles avant l'avènement du standard PC.
Oui. Ah oui, oui.
Qui a du coup calmé un peu tout le monde.
Oui, oui.
Console, il y a eu toujours 3-4 fabricants grand maximum.
Oui.
Il y a eu beaucoup d'initiatives dans des pays comme le Japon par exemple, mais qui restaient sur des parts de marché anecdotiques. Donc oui, il y a eu Sega, Nintendo, la grande guerre.
Oui, c'est vrai.
Quand Sony est arrivé, Sega a un peu laissé la place, je schématise.
Oui.
Microsoft est rentré dans la danse également. Donc aujourd'hui, oui, il y a 3 offres distinctes pour ce qui est du marché des consoles. Microsoft, Sony avec ses PlayStation et Nintendo. Nintendo fait son petit bonhomme de chemin tranquille, sans souci, avec ses licences et autres. Et Sony et Microsoft, écoutez, l'avenir nous dira. Mais il n'est pas impossible qu'il y en ait un qui disparaisse.
Ouais, ce serait dommage d'ailleurs.
Dommage, oui. Alors, dommage pour les joueurs. Parce
oui,
que
pour les joueurs, oui. Bah, oui. La concurrence, voilà, et puis la concurrence des choses est différentes. Est c'est comme Mac PC, enfin, c'est dualité, ou AMD, Nvidia, par exemple. Je crois qu'on a bénéficié en tant que consommateur et utilisateur aussi.
Voilà, alors les nouveaux venus pourraient être ce genre de mastodonte, là, Nvidia, Valve et autres. Voilà.
Ouais.
Donc, on ne sait pas.
Oui, c'est sûr.
Et puis, c'est très difficile de se projeter.
Ah oui, oui. Et donc, bon, on sait qu'on a David aussi, lui aussi fait partie des gens qui collectionnent, hein, parce que
oui.
C'est vrai que. Alors, il y avait une problématique à une époque aussi, c'était un peu financière, c'est-à-dire, bon, voilà, je revends ce que j'ai pour financer le prochain achat, etc. Et il fallait avoir le courage, la force et l'abnégation de faire des économies pour conserver ce qu'on avait pour acheter une nouvelle console. Après, c'est vrai qu'il y avait des problèmes de standard, il n'y en avait pas vraiment à une époque. On en a parlé de Sony, c'est vrai qu'ils ont tenté, au niveau informatique, ils avaient lancé le MSX, là, qui était une tentative de standard, en fait, d'ordinateur. Il y a quelques marques, dont japonaises la plupart, je crois, je ne sais plus combien, qui avaient sorti c'est les premiers ordinateurs qui étaient compatibles, à part les PC, quoi.
Alors oui, alors le MSX, alors je vais pas m'aventurer à parler du MSX en détail. Bon, je connais un peu, mais j'ai des spécialistes autour de moi qui vont hurler si j'en parle. oui, le MSX est une expérience d'essayer de standardiser les choses. Pour en venir, à la collection, on avait un jeu à Noël et on avait un jeu à notre anniversaire. Fallait pas être né un 25 décembre, mais
voilà.
mais voilà, en gros, on était là. Et donc, ça rejoint un peu le modèle économique que je vous disais avant. On était obligé de sortir pour jouer en salle d'arcade.
Oui.
On avait un ou deux jeux, donc on les ponçait maximum. Aujourd'hui, le jeu est omniprésent. Le jeu est, entre guillemets, gratuit, c'est le simple fait de jouer. Donc, c'est vrai qu'il y a une offre comme jamais il y a eu dans l'histoire.
Oui.
C'est assez fou. Quand on voit l'évolution d'une plateforme comme Steam, c'est complètement dingue. Il y avait quelques dizaines de jeux, quelques centaines de jeux qui sortaient par an et qui a explosé à plusieurs milliers par semaine. Enfin, c'est fou.
Puis Steam, ils ont élargi leur offre. C'est que maintenant, on a d'autres choses, hein, pas forcément que des jeux sur Steam. De même manière que sur la chaîne qui finit par un X, on peut aussi avoir des jeux vidéo maintenant, au lieu de regarder des séries d'ailleurs. Ils ont un petit peu.
L'évolution, on verra, mais voilà, il y a l'offre Microsoft avec le Game Pass, donc on est sur ces formules d'abonnement, mais en tout cas, on a un choix énorme. Et donc, le rétro gaming, les jeux anciens, viennent enrichir cette offre en surfant à la base sur la vague de la nostalgie et des souvenirs.
Voilà.
Mais pas que, que.
C'était Huey Lewis and the News, The Power of Love. Alors, pas vraiment directement de référence à un jeu vidéo, mais on va dire une connexion à une époque dorée, on va dire, puisqu'on en parlait un petit peu de nostalgie et de souvenirs.
Retour vers le futur.
Oui,
d'ailleurs, les jeux n'étaient pas très bons.
on en a parlé en off, mais oui, les adaptations de films en jeux vidéo à cette époque n'étaient pas gage de qualité. Il y en a toujours eu et il y en a actuellement qui sortent et qui, à mon sens, sont plus qualitatives.
Oui, bien sûr,
on pense bien sûr au film Super Mario, puisque Nintendo part dans cette direction de sortir des films. Le prochain arrive bientôt sur vos écrans.
Et voilà. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de votre association, du coup, parce que vous avez une association. Alors, elle existe depuis quand et qu'est-ce qu'elle fait, cette association?
Alors, comme je l'évoquais, moi j'étais un collectionneur, donc j'avais l'opportunité d'être déjà un gros collectionneur à l'époque. Et donc, au milieu des années 90, on jouait beaucoup sur les consoles de la génération qu'on appelait 16 bits, donc Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo. On jouait à des conversions d'arcade, principalement, donc surtout chez Sega. Et donc, le haut de la pyramide de la collection, c'était d'avoir une vraie borne d'arcade. Ça paraissait complètement inconcevable à l'époque. C'est du matériel professionnel qui était dans les salles dédiées ou dans des endroits spécifiques. J'ai eu la chance dès 1994 de récupérer une borne d'arcade dans ma collection, donc j'étais sûrement peut-être pas le premier, mais en tout cas un précurseur en France de ce type de matériel à domicile. Donc ça a été la frénésie, l'arcade tombait en le marché s'est écroulé ensuite, j'ai pu en récupérer beaucoup. Et dès le début des années 2000, dès qu'Internet est arrivé et que j'ai pu me mettre en contact avec d'autres passionnés collectionneurs au-delà de mon petit réseau personnel d'amis en local. On a compris voilà, qu'il fallait sauvegarder, se structurer, qu'il y avait un partage à faire au public, mm-hmm. qu'il fallait se rassembler autour de compétences techniques et autres. Mm-hmm. Et donc, l'association est née, donc officiellement en 2004.
D'accord. Et alors, donc vous faites quoi ? Vous organisez des conventions, vous faites des interventions aussi ?
Alors, la mission première de l'association, c'est la préservation.
Oui. Voilà, la sauvegarde, notion de patrimoine.
La sauvegarde d'un patrimoine, donc le patrimoine vidéoludique. Donc, on a sauvegardé, dans la mesure du possible, beaucoup de choses. Alors maintenant, on parle d'un vrai marché où le rétro gaming est cher, on va sûrement l'évoquer.
Oui.
Mais à l'époque, c'était vraiment les sauver de la destruction, de la benne, de la destruction.
Oui.
Voilà, purement et simplement destruction. Donc nous, on a essayé d'œuvrer à récupérer un maximum de matériel avec tous les problèmes logistiques, évidemment, que ça peut qui en découle.
Le stockage, j'imagine que ça doit être un problème.
C'est toujours un problème.
Oui, oui, bah, oui, oui.
On n'a jamais assez de place. Ouais. Donc on a sauvegardé. Et dans un deuxième temps, quand on sauvegarde du matériel, on veut apprendre son histoire, on veut l'entretenir. Donc là, après, il y a toutes les compétences techniques, etc. Donc on se réunit pour essayer de faire ça.
La restauration.
Et ensuite, il y a le partage. Oui. Puisque c'est du matériel qu'on veut partager et qui est là pour être joué, donc remis dans la main du public, initié ou pas, nouvelle génération, voilà, peu importe. Et pour ce faire, nous, on a choisi au fil du temps de partir plus avec l'association sur des événements à caractère culturel. Donc on est plus sur des animations en médiathèque ou dans des expositions dans des lieux publics, voilà, plus que des ce qu'on appelle les conventions classiques, geeks et autres festivals. D'accord, qui ont lieu tous les week-ends.
Alors oui, on parlait alors donc de cette notion de patrimoine, de musée et de stockage. Alors parce que c'est ce que disait tout à l'heure Antenne, mais en fait plus la spéculation, etc. Donc je disais que tous les marqueurs sont là. Ça démontre une chose, c'est que le jeu vidéo est un art, puisque en fait on y retrouve les mêmes choses que pour le marché de l'art. Il y a de la restauration, il y a de la spéculation, il y a de l'exposition, de la communication.
Oui, c'est un art à part entière. Alors, on parlait de l'art cinématographique pendant un moment, qui a mis un petit peu de temps à se faire reconnaître, et qui maintenant, je pense, est clairement
comme la BD aussi.
La BD, effectivement, voilà. aussi.
Des arts populaires.
Voilà, des arts populaires. Et donc, le jeu vidéo en est un à part entière,
Oui, si on imagine effectivement qu'on peut faire un parallèle avec le cinéma, il se passe souvent une histoire, il y a des représentations graphiques du mouvement et de la musique, voilà, c'est une œuvre d'art, forcément.
Voilà, donc le parallèle avec le cinéma est omniprésent. Le jeu vidéo veut faire des jeux comme des films, les films maintenant veulent faire des films avec des jeux vidéo, donc le parallèle est permanent. Alors nous, avec la spécificité de l'arcade, qui est la spécificité de l'assaut, on fait des parallèles par exemple avec le monde de l'automobile, pour le caractère développement technique, machine, entretien, etc. Voilà. Il y a des parallèles avec d'autres industries. On parlait tout à l'heure de l'État, de la reconnaissance de l'État de ce patrimoine. Par exemple, l'État n'avait pas d'organes et n'a pas créé d'organes spécifiques aux jeux vidéo, très peu, et donc a confié au fil du temps des missions à des organes déjà existants. Donc vous avez la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui a la mission de sauvegarde d'un exemplaire de chaque exactement comme la musique et le cinéma. Vous avez le CNC
le CNC
qui lui a hérité de la mission de subventionner les jeux indépendants, etc. Il y a deux grands syndicats en France du jeu vidéo, donc le SNJV, Syndicat National du Jeu Vidéo, avec des acteurs du milieu qui œuvrent, et c'est d'ailleurs eux qui font les rapports justement de qui joue aux jeux vidéo, etc. Et vous avez le CEL, le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui a un regroupement des grandes entreprises, on va dire, du secteur en France, et c'est eux par exemple qui organisent le Paris Games Week. Donc il y a différentes entités qui œuvrent pour faire reconnaître le jeu vidéo et le partager au public. Et nous, avec notre association,
vous y contribuez.
On y contribue.
Oui, bien sûr. Très bien. Ben, on est content d'y contribuer, nous aussi, aujourd'hui, de parler d'une chose voilà, que nous on connaît et qu'on aime. Et ça fait plaisir de le partager avec le public, même s'il y a des gens qui doivent penser qu'on est fou. D'ailleurs, geek, à une époque, c'était un mot qui voulait dire fou, d'ailleurs. Ça date du Moyen-Âge, etc., les premières apparitions de ce mot.
Il y a toujours des connotations péjoratives à tout ça. Alors, moi, j'aime pas trop le mot geek non plus. Oui, moins maintenant.
Maintenant,
nous, en France, par exemple, le jeu vidéo était lié au Japon. On parlait d'otaku.
Oui, voilà, otaku.
Donc, otaku, qui était un terme très péjoratif au Japon. Et maintenant est passé
dans
le langage un petit peu populaire du milieu du vidéo français.
Et c'est reparti, Tech on Me, on est dans le... Après, c'est le fonds de commerce, notre radio, souvenir, on est dans le souvenir. Hein. Donc il y a plein de gens qui nous écoutent, des copains à qui on a dit un coucou à Cyril d'ailleurs, qui sont intéressés par ça, parce que ça fait partie de leur vie. Hein. On parlait de culture, Alors je vais en profiter rapidement pour faire tailler un petit short à monsieur Yann Moix, on en a parlé aux antennes, parce que c'est une culture. Nous, les gens qui sont ici dans ce studio ont l'habitude, on essaie de partager ça avec nos auditeurs, mais il y a des gens qui pensent encore, qui prennent ça de haut, avec mépris. Et Yann Moix, chroniqueur et polémiste, avait dit, il travaillait chez Laurent Ruquier, qu'il appelait tout adulte de plus de 25 ans qui joue à un jeu vidéo à un demeuré, qu'il y a des choses plus intelligentes à faire que de se souiller le cerveau et d'insulter sa propre intelligence que d'aller sur les écrans jouer à des singes et des bananes. Vous êtes des abrutis. C'était une petite citation de Yann Moix, qu'on embrasse d'ailleurs.
Oui, alors, je vais réagir à ça. C'est une intervention qui a déjà défrayé la chronique, comme à chaque fois. Alors, pas le seul. Alors, le mot polémiste est vraiment le mot adapté, je pense. C'est les gens qui font exprès, ils veulent créer la polémique. Ça n'a aucun sens, évidemment. Le jeu vidéo est étudié et travaillé maintenant dans plein d'aspects différents. Il y a des études et des comportements liés aux jeux vidéo qui sont tout à fait bénéfiques. Donc ça sert dans la médecine, par exemple. Maintenant, on fait jouer les personnes âgées, par exemple.
Ah oui, bien sûr.
Ça aide à la mémoire, à la compréhension. Il y a tous les réflexes, la concentration. Il y a des jeux éducatifs, évidemment, parce que quand on parle de jeux vidéo, il y a ce mot « jeu » qui est omniprésent et on pense qu'on joue qu'à Mario. Non, pas du tout. C'est devenu comme le cinéma, justement, avec des genres. Alors, il y a des jeux dangereux, effectivement, que ce soit par l'addiction qui peuvent représenter. Ou même par les sujets. Hein. Il y a des jeux racistes, il y a des jeux avec du contenu pour adultes, etc. Oui, comme dans le cinéma, il y a vraiment tous les genres.
Oui.
Mais du coup, il y a des jeux historiques, il y a des jeux qui servent à apprendre.
Vecteur de culture, d'information.
Etc. Donc il y a de tout, donc c'est absolument pas...
Oui, Alors après, c'est vrai que je me rappelle pendant le confinement, tout à coup, des gens se sont mis à utiliser Animal Crossing comme réseau social. Des gens qui étaient là un peu... on a tous connu ce confinement un peu enfermé. Certains avec passaient du temps avec des jeux. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont mis à ce jeu parce que c'était devenu une manière de communiquer, de partager avec les gens et d'être moins seul. Hein.
Alors c'est une grosse question qui revient souvent parce qu'au-delà des animations qu'on fait avec du matériel et de la nostalgie, on est questionné, on intervient sur plein de questions sociétales que les gens pourraient se poser sur l'utilisation du jeu vidéo. Et donc il y a des craintes des parents, donc il y a ce fameux mot qui est apparu de l'addiction aux jeux vidéo et de ces réseaux sociaux et Internet qui fait peur parce que maintenant on est en chat, les collégiens. Donc il y a des modes, il y a Minecraft, Fortnite, etc. Des jeux qui monopolisent beaucoup l'attention des jeunes et qui inquiètent les parents. Et en fait, oui, il y a cette connotation réseaux sociaux qui est très très importante et qui fait qu'on ne peut pas empêcher. Je passe le message aux parents qui écoutent. L'interdiction pure et dure de jouer aux jeux vidéo n'a aucun sens maintenant. Ça va créer plus de frustration et l'interdit va amener peut-être à des dérives. Donc il faut simplement s'emparer du sujet, savoir que pour un jeune, c'est son réseau social est lié très souvent aux jeux vidéo. Donc nous on a eu les MMO, World of Warcraft, etc. En notre temps, là actuellement c'est Fortnite, etc. Écoutez, très bien.
Partager ça aussi avec
et donc ça, il partage avec ses amis, il se retrouve là-dessus. Il faut juste contrôler, avoir un petit regard il faut que ça reste dans le réseau des gens un collégien, il faut qu'il joue avec les personnes de son collège, c'est sûr que et ce sont des plateformes effectivement où des gens vont venir chercher l'attention du public, que ce soit pour pour divulguer des idées, voilà, que ce soit raciste ou d'extrémisme, quel qu'il soit, ou politique, voilà. Ils vont essayer de tirer vers eux. Bien mais sûr. Ça, c'est vrai dans le jeu vidéo, mais c'est vrai dans tout. Hein. Bah, ça a été vrai à la télé, dans la pub, ça a été vrai dans plein d'émissions, dans le cinéma aussi, le cinéma de propagande, voilà. Voilà. Donc, on est conscient de ça, et ça fait partie du jeu vidéo. Le jeu vidéo est un vecteur culturel comme un autre, donc il a aussi ses dérives, ses dangers, et ses champs d'action, et, comme le cinéma, comme la musique, etc.
Oui, tout à fait. Alors, on va se retourner un petit peu vers votre association aussi, parce qu'il y a des événements, qui vont en devenir, et des choses intéressantes, à court, moyen ou long terme, parlons-en.
Alors, du coup, y a 52 week-ends par an, parce que nous, c'est principalement les week-ends.
La vie est mal faite. Hein.
Et
il n'y en a que 52.
Voilà, et nous, on fait un peu plus d'une trentaine d'animations par an, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Oui. Donc, principalement les médiathèques. Donc là, on est sur une radio, on est basé dans les Landes. Donc, on en fait principalement dans les Landes. On n'en fait pas que. On fait la Gironde, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, tous les départements autour. Et voir à l'échelle nationale, sur plein d'actions. On va en reparler un peu après. Et donc oui, on intervient à Saint-Sevé pour la fête du jeu. On est intervenu à Morsinx récemment pour la fête du jeu également. Nous étions à Saint-Paul-les-Dax, à la médiathèque, il y a une semaine ou deux. Ce samedi, nous serons à Saint-Martin-de-Seignan, également à la médiathèque. Donc voilà. Donc c'est sans cesse. Donc j'invite tout le monde à nous suivre et voir où c'est qu'on intervient. Et après, il y a effectivement deux grands rendez-vous qui s'annoncent pour l'association elle-même. Donc la première, très rapidement, c'est nous sommes donc basés principalement du côté d'Ers-sur-Adour. Donc elle est sur l'extrême frontière du département. Donc nous serons à la médiathèque d'Ers-sur-Adour pendant 2 semaines, les 2 semaines des vacances de Noël. Et on en profite, puisqu'en plus l'espace est très sympa, pour nous déployer sur une vraie exposition pendant 2 semaines, avec des thématiques et du beau matériel, voilà, une scénographie un petit peu plus avancée que ce qu'on a l'habitude de faire sur des événements plus ponctuel. Donc c'est une vraie vitrine déjà pour l'association, donc venez nous voir à ce rendez-vous-là. Et ensuite, on a la volonté, on l'a déjà fait par le passé, faire un grand rendez-vous de l'association, ouvert à tout le monde. Et je ne peux pas donner encore ni le lieu et la date, mais l'idée c'est en 2026 de se retrouver sur même plus qu'un week-end.
Oui, une grosse convention, quoi, on va dire.
Alors, ça ne sera pas une convention, ça sera vraiment plus sur une expo culturelle, mais avec beaucoup, beaucoup de jeux, beaucoup, beaucoup d'arcades, des spécialistes, donc il y en aura pour tous les goûts. Le projet actuel est d'être sur 2 week-ends des vacances de la Toussaint, avec la semaine au milieu, donc on serait sur 9 jours d'ouverture, basé dans les Landes, et de pouvoir proposer encore une vitrine encore plus riche à tout le public qui viendra, avec une portée, on l'espère, au-delà du simple public local. Voilà, on aura des communautés de joueurs qui vont se déplacer et venir nous voir.
Chouette. Bah, je pense que David et moi, c'est possible qu'on passe.
Vous êtes invité.
On va peut-être faire un tour.
Ouais, c'est possible. C'est possible. Alors, il y a aussi un projet de musée. On parlait de patrimoine. Donc, le mot musée arrive forcément. Un musée du jeu vidéo à Paris.
Oui, alors c'est plus qu'un projet, c'est une réalité. Il a été annoncé durant la Paris Games Week, qui a eu lieu il y a très peu de temps. Donc c'est pas un projet, là c'est vraiment l'ouverture d'un musée du jeu vidéo en région parisienne, donc à Arcueil plus précisément, donc ça touche Paris un petit peu au sud, qui est porté par l'association dont je fais également partie et qui est partenaire de la mienne depuis de longues dates. On a un parcours à peu près similaire, qui s'appelle MO5,
Vieil ordinateur de chez Philips, pour ceux qui connaissent. Thomson.
Donc le MO5 est emblématique. Donc l'association porte ce nom-là. Donc il porte un musée du jeu vidéo depuis de longues années. On a travaillé et on travaille tous ensemble, tous les acteurs du milieu, depuis, 25 ans pour en arriver là. Et là, donc concrètement, il y a un lieu, Arcueil, qui ouvre. Et donc le musée ouvre le 13 décembre au public. Et on va essayer de le faire évoluer, agrandir, et puis surtout avoir toutes les activités qu'on attend d'un musée. Donc évidemment, vous aurez l'expo historique, chronologique, oui, que tout le monde attend, mais pas que, des ateliers, de la préservation, des animations. Et voilà. Et le GM Game Center, l'association et moi en personne, ben, on est vraiment partenaires, main dans la main avec l'association MO5, pour ce musée. Nous, on, bah, évidemment, on nous confie plus la... la partie arcade, qui est la spécificité de, de notre asso.
Très bien, moi ça aussi, ça va être une visite qui doit être bien sympa. Ça, c'est grand comment ça, en termes de jauge, qui, de personnes qui peuvent aller dans ce musée.
Alors pour l'instant, donc, l'ouverture va se faire sur une première phase de quelques mois pour... voilà, parce qu'il faut bien, commencer par quelque chose. Ça va être une exposition qui va être sur 1300 à 1600 mètres carrés.
D'accord.
Donc déjà, on aura une belle offre. Pour ceux qui connaissent et qui nous écoutent, voilà, ils ont déjà fait beaucoup d'expositions qu'ils appellent Game Story. Donc la dernière en date était à Versailles. L'année dernière, mais il y a eu aussi au Grand Palais, à Paris, ainsi qu'au CNAM, donc c'est le musée des arts et métiers. Donc voilà, donc, l'habitude de voir ce genre d'exposition. Les heures d'ouverture prévues sont les mercredis et les week-ends, plus toutes les vacances scolaires. Voilà, le reste du temps, il y aura sûrement des accès pour des groupes ou, ou autres, avec une entrée à moins de 10 euros.
Voilà. C'est pas mal ça.
Et bien sûr, la volonté chez MO5, comme au Jam Jam Center, est d'avoir un maximum de postes jouables, puisque nous, on veut voilà, montrer, mais surtout remettre dans les mains du public, jouable, dans l'expérience la plus proche de l'époque, ben, tout ce matériel. Donc voilà, ce ne sera pas une expo poussiéreuse d'objets sous vitrine. Il y aura ça, mais il y aura surtout de quoi jouer et apprendre.
Oui. Alors, un petit message bon, pour les auditeurs, moi, certains qui ne connaissent pas trop ce milieu-là, qui disent ouais, c'est un peu, voilà, ça ne les intéresse pas forcément. Ce n'est pas possible de ne pas trouver un jeu qui ne vous convienne pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas, même partie tradie, on peut pêcher la truite dans des jeux vidéo, il y a des simulateurs de chèvres, enfin je veux dire, la liste est tellement longue que c'est obligé de trouver à un moment donné quelque chose qui s'apparente au goût qu'on a et d'y mettre le doigt un petit peu dans cet univers si on ne connaît pas déjà.
Ah oui, alors là, le champ des jeux vidéo est infini. Il y a bien sûr des choses complètement imaginées, incroyables, la science-fiction et autres. Il y a tous les classiques que les gens peuvent avoir en tête, type jeu de plateforme Mario et autres. Mais oui, il y a tous les simulateurs de vie, il y a toutes les simulations. Donc une simulation, c'est d'essayer d'être au plus près de la réalité. Donc il y a les simulations de conduite, les simulations de travail. Donc vous pouvez travailler dans un jeu vidéo.
Ah, voilà, non, j'ai pas envie.
voilà, la plupart des gens, mais il y a des simulations de tout. Voilà. Il y a tous les jeux de sport, il y a tous les... Enfin, c'est infini. Donc oui, effectivement, en cherchant bien. D'ailleurs, tous les jeux traditionnels, classiques, auxquels les gens ont joué, que ce soit des jeux de plateau, des jeux en bois, des jeux de cartes, des jeux de... Voilà. Ont leur équivalent en jeu vidéo, ont été adaptés en jeu vidéo. Vous avez des jeux d'échecs, vous avez des jeux de poker, vous avez des jeux de...
Oui, il y a des gens qui jouent au Scrabble ou à la belote en ligne.
Voilà, bien sûr. Bien sûr. Donc, le jeu vidéo a des multiples facettes, et donc impossible, effectivement, de pas... C'est juste un support.
Voilà, c'est ça. Bon, on va faire notre dernière pause pour attaquer malheureusement la dernière partie de cette émission. Et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de cette émission. Alors, on vous mettra une photo avec le podcast aussi, parce que James n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec plein de petites choses qui mettent les yeux qui brillent, comme si on était au pied du sapin, n'est-ce pas, David ?
C'est John Noël.
voilà. Et donc, voilà quelques objets de ce culture-là qui ont une certaine date, la plupart. C'est vrai que...
Iconique.
Ouais, voilà.
Génération, alors on peut le dire, là, voilà, on parle de l'Atari Pong, du Phaser, de la NES, donc pour chasser les canards.
Il a produit des canards avec ça.
La première Game Boy, une vraie révolution, évidemment. Le premier Sonic, Street Fighter 2, les disquettes. Informatiques disparus maintenant, etc. Tout ce genre d'objets.
Oui, alors la disquette, je trouve que c'est bien un petit peu de le montrer aux jeunes, entre guillemets. Parce qu'il y a quand même, au niveau ergonomie, je trouve qu'il y a quand même une certaine. Un truc un peu bizarre, c'est qu'on a souvent gardé l'icône de la disquette pour symboliser la sauvegarde. Oui. Sauf qu'un gamin qui arrive là, quand il
c'est
la voit,
ça, ouais.
il ne peut pas savoir ce que c'est.
D'où l'intérêt de raconter une histoire
oui.
pour que tout ça ait un sens pour les générations futures.
Oui. Parce que ça semble évident pour quelqu'un d'un certain âge en termes d'ergonomie, mais quelqu'un qui est un gamin, je sais pas, de 15 ans, lui, a priori, il ne va pas d'instinct se dire « Ah ouais, c'est pour sauvegarder », sauf s'il a appris l'icône dans son expérience.
Alors, la sauvegarde en tant que telle, hein, pour rebondir sur ce mot, donc là, on parle de sauvegarde de logiciels sur des supports physiques. Mm-hmm. Nous, on avait des supports, des piles de sauvegarde pour sauvegarder nos parties dans certains jeux.
Oui.
Voilà, la grosse difficulté actuelle de l'association et de la préservation du jeu vidéo dans son ensemble dans le futur, c'est dématérialiser, le fait que c'est tout, il n'y a plus de format physique.
Oui, voilà, c'est ça.
Tout le temps vers là. Alors, il y a toujours les données hein, qui sont sur les serveurs, le cloud, le machin.
Oui.
Mais voilà, c'est volatile. Il y a plus ce rapport à l'objet.
Oui.
Qui nous est un peu notre faux de commerce nostalgique. Hein,
c'est vrai.
Nostalgique de lieux comme les salles d'arcade ou nostalgique d'objets physiques, de cadeaux de Noël, de choses comme ça.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc c'est sûr que je ne sais pas comment un enfant dans 10, 15, 20 ans aura un rapport avec un jeu qu'on lui a offert à Noël alors que c'est juste un téléchargement sur un support.
Oui.
Donc nous, ça manque un peu. Je pense aussi que les créateurs, les vendeurs de jeux vidéo l'ont bien compris, les compagnies, puisqu'elles continuent à faire des collecteurs où il n'y a même plus le jeu dedans, il y a un code, mais on continue à faire du packaging, les collecteurs ne sont jamais aussi bien vendus.
Ouais.
Donc tout ça, c'est quelque chose qui questionne sur le futur. Le problème de la dématérialisation des jeux vidéo aussi, c'est que c'est sur des serveurs privés, les serveurs des compagnies qui ont créé les jeux. Donc les compagnies, si elles ne font pas ce devoir de sauvegarde, et ce n'est pas dans leur mission, elle, puisque leur mission, c'est de produire et de vendre, ça disparaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart du contenu téléchargeable sur les machines récentes, si demain Steam s'arrête, vous perdez tous vos jeux, parce qu'ils ne sont pas en physique. Pareil sur le PSN dans la PlayStation, le Game Pass, si le Game Pass s'arrête demain, vous avez payé votre abonnement, mais vous n'avez pas de jeu. Donc on essaye de trouver des solutions, nous, et d'inciter les fabricants du milieu à trouver ces solutions, puisque notre mission première, c'est de sauvegarder le jeu vidéo pour les générations futures.
Voilà, très bien. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup, James. C'était très chouette. Et puis, c'est sympa de pouvoir partager ça et avec nos auditeurs, cette passion. Et puis, de redire que c'est un patrimoine, que ça fait partie de notre culture, au même titre que des tas d'autres choses. Voilà.
Écoutez, merci à vous de m'avoir invité. Il y aurait tellement de sujets à développer.
Oui.
Voilà.
On va jouer un petit peu, là,
maintenant. Voilà, allez, on va jouer.
Allez, on va allumer la Game Boy.
Allez, merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.